Il est 9h à Paris, 8h en temps universel. Merci d'écouter RFI. Bonjour, bienvenue à suivre dans 10 minutes vos questions sur l'actualité et dans 40 minutes vos réactions sur le passé colonial de la France au Cameroun. Mais d'abord le journal, Journal International. Bonjour Léa Boutin-Rivière.
Bonjour Juan, bonjour à toutes et à tous. Moins de coopération, plus de protectionnisme, le tout sous la bannière America First. Voilà la vision que Donald Trump devrait défendre cet après-midi au Forum économique de Davos. Intervention particulièrement attendue. Les Nations Unies inquiètent de la situation en Colombie. Depuis quelques jours, le pays fait face à une flambée de violence de la part des guérillas de gauche. Une centaine de personnes ont été tuées en moins d'une semaine. Également dans ce journal, polémique en Italie après l'arrestation puis la remise en liberté d'un haut responsable du régime libyen. Et en Thaïlande, les tout premiers mariages homosexuels célébrés aujourd'hui. À Davos, on n'attend que lui avec une certaine fébrilité. Le président américain fraîchement investi, Donald Trump, prendra la parole en fin d'après-midi au plus célèbre des forums économiques. Il exposera sa vision de la politique économique pour les années à venir, entre protectionnisme, droits de douane tous azimuts et priorité absolue donnée aux États-Unis. Le chef d'État risque de trancher franchement avec le modèle mis en avant à Davos, Nicolas Feldman.
C'était déjà en 2020 une rupture à la tribune de Davos. Donald Trump défend sa politique économique désormais axée sur les seuls intérêts des Américains.
L'Amérique est parvenue à adopter une toute nouvelle approche entièrement centrée sur le bien-être du travailleur américain. Chaque décision que nous prenons en matière d'impôts, de commerce, de réglementation, d'énergie, d'immigration, d'éducation, tout cela est centré sur l'amélioration de la vie des Américains ordinaires.
5 ans plus tard, à Davos, Donald Trump devrait promettre d'appliquer les mêmes recettes. Plus de protectionnisme, moins de règles et moins de place à la coopération entre les États, soit l'inverse du modèle prôné à Davos, l'économiste Isabelle Bensidoun, membre du CEPI.
Il n'a pas une stratégie de ce qu'on peut voir à Davos sur un certain nombre de décisions qui doivent être prises en commun. Sur la transition écologique, il faut faire des choses, elles peuvent être que multilatérales. C'est sûr qu'il n'est pas dans la coopération, il est sans doute plus dans la négociation pour obtenir des concessions pour les Américains.
Avec déjà un aperçu de son second mandat dès lundi, Donald Trump a acté le retrait des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat ou encore de l'Organisation mondiale de la santé.
Et pendant l'intervention de Donald Trump, plusieurs patrons triés sur le volet devraient avoir l'opportunité de lui poser des questions. Parmi eux, on vient de l'apprendre, le dirigeant de Total Energy, Patrick Pouyanné. L'autre grand cheval de bataille du chef d'État américain, c'est la lutte contre l'immigration clandestine. Et c'est donc précisément sur ce point que le Congrès s'est penché pour sa toute première loi sous l'ère Trump. Le texte a été validé, il n'a plus qu'à être promulgué et il oblige l'État fédéral à incarcérer tout migrant entré illégalement sur le territoire et qui est accusé d'un crime ou d'un délit. C'est conforme aux priorités des Républicains, mais ce projet a aussi été soutenu par plusieurs démocrates. Une véritable déception pour l'avocate Carla Marisol Vargas qui s'exprimait en marge d'une manifestation au Texas.
Cette loi prévoit une peine d'emprisonnement obligatoire pour les migrants en situation irrégulière et ce même pour des délits mineurs. Par exemple, si une adolescente vole un rouge à lèvres, cela pourrait entraîner une peine de prison obligatoire en vertu de ce projet de loi. Mais une telle mesure violerait la Constitution qui garantit des protections fondamentales comme le droit à une procédure régulière. Cette loi est extrêmement dangereuse. Et elle nuit particulièrement à ceux qui sont déjà constamment ciblés et stigmatisés dans le climat politique actuel. Le fait que des démocrates aient également voté pour ce texte illustre un glissement vers la droite de ce pays. La politique nationale dérive vers des positions conservatrices et cela s'inscrit malheureusement dans une tendance internationale. C'est vraiment décevant de voir nos représentants, ceux en qui nous avions confiance pour combattre cette dérive droitière, se ranger de ce côté. Nous avions vraiment espéré qu'ils feraient mieux.
Propos recueillis par notre envoyé spécial Arim Lipold. 100 morts en 6 jours, 20 000 déplacés, la Colombie face à une flambée de violence, des combats entre guérillas de gauche pour prendre le contrôle des plantations de coca et plus largement du trafic de drogue. C'est la première fois depuis 2016 que la situation se dégrade autant, à la fois dans l'intérieur du pays et à proximité de la frontière vénézuélienne. Le gouvernement a donc déclaré l'état d'urgence et mobilisé 5 000 soldats. Quant aux Nations Unies, réunies au sujet du pays hier, elles ont fait savoir leur inquiétude, Karine Auten.
À l'ONU, on s'inquiète des violences en Colombie alors que justement le processus de paix là-bas depuis 2016 était cité en exemple de conflit résolu avec succès. Les pays membres ont condamné les meurtres de ces anciens combattants signataires de la trêve par la guérilla ELN et poussé le gouvernement colombien à continuer à tout faire pour préserver l'accord de paix. Le secrétaire général a demandé l'arrêt immédiat des actes de violence contre la population civile. Son représentant, Carlos Ruiz Massieu, a lui conseillé à Bogota de prendre cette crise comme une opportunité.
Depuis un certain temps, nombreux sont ceux qui appellent, d'une part, à ce que les acteurs armés en dialogue s'engagent fermement à respecter le droit international humanitaire, et d'une autre, que les efforts de dialogue soient accompagnés de stratégies de sécurité efficaces axées sur la prévention et la protection des communautés. Je suis sûr que le gouvernement considérera sérieusement ces appels tout en maintenant sa volonté de poursuivre le dialogue.
Le ministre des Affaires étrangères colombien, Luis Gilberto Murillo, a lui expliqué pourquoi son gouvernement avait décidé de suspendre les négociations de paix engagées avec la guérilla ELN. La paix doit pouvoir se négocier dans les deux sens, a-t-il dit. Karine Auten, New York, RFI.
RFI, il est 9h06 à Turin et à Rome, où l'opposition s'en prend au pouvoir autour de l'arrestation d'un responsable libyen. Arrivé en Italie le 18 janvier, Osama al-Masri, le numéro 1 de la police judiciaire libyenne, a été interpellé dans la foulée en exécution d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, car la CPI l'accuse de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité en raison notamment des tortures subies par des migrants dans le centre de détention de Mitaga qu'il dirige. Sauf que 3 jours plus tard, Al-Nenir, ce responsable a été libéré pour vice de procédure et rapatrié aussitôt.
En Italie, suivant une loi de 2012, le ministre de la Justice doit être averti en premier de l'interpellation d'un individu en vertu d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Il doit ensuite demander à la Cour d'appel de Rome l'autorisation de sa détention provisoire. Mais le garde des Sceaux, Carlo Nordio, aurait reçu trop tardivement les informations sur l'arrestation du chef de la police judiciaire libyenne le 19 janvier à Turin. D'où la décision de la Cour d'appel d'invalider, le 21 janvier, en fin d'après-midi, l'arrestation d'Osama al-Masri pour vice de procédure. Toutefois, cette version officielle des faits pose question, notamment parce qu'un avion a été mis à disposition par Rome dès le matin du 21 janvier pour rapatrier le responsable sécuritaire libyen à Tripoli. Scandalisée, l'opposition suspecte le gouvernement d'avoir protégé Osama al-Masri pour ne pas remettre en cause les accords entre Rome et Tripoli visant à freiner les flux migratoires vers l'Italie. Elle réclame avant tout les explications de Giorgia Meloni devant le Parlement. Anne Lenir, Rome, RFI.
Le drapeau arc-en-ciel flotte avec fierté au-dessus de la Thaïlande. C'est avec ces mots que la première ministre du pays a salué ce matin les tout premiers mariages homosexuels célébrés en Thaïlande. Donc, des centaines de couples devraient se marier aujourd'hui après l'entrée en vigueur du texte voté il y a quelques mois. Yelena Tomic, c'est une première dans la sous-région saluée par les défenseurs des droits humains et les militants.
C'est un grand jour de fierté pour les couples de même sexe qui vont enfin pouvoir sceller leur union suite à l'adoption de la loi en septembre autorisant les personnes LGBTQ à se marier légalement. La nouvelle législation qui entre en vigueur ce jeudi prévoit le remplacement dans le code civil des mots hommes et femmes et époux et épouse par des termes plus neutres tels que personne et époux, ce qui garantit aux couples mariés de même sexe les mêmes droits juridiques, financiers et médicaux qu'aux couples hétérosexuels. Sexuels mariés. Se marier sous la nouvelle loi signifie aussi que le couple pourra désormais enregistrer sa propriété et accéder à des hypothèques conjointes. Malgré une réputation de société tolérante vis-à-vis des identités de genre et de pays pionniers en termes de droits LGBTQ+, la Thaïlande devient le 3e pays asiatique à autoriser le mariage entre personnes de même sexe après Taïwan et le Népal, mais le 1er en Asie du Sud-Est, région où de nombreux pays continue d'imposer des restrictions sévères à ses communautés.
Yelena Tomic, pour refermer ce journal, il est 9h10 en fait, ici à Paris, une heure de moins en temps universel. Je vous laisse avec Juan Gomez pour rappel sur l'actualité.
Merci Léa Boutin-Rivière. Très bonne journée, restez avec nous dans 30 secondes. RFI vous donne la parole, vos questions et vos réactions sur l'actualité.